fort et reclus.
Fort et reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance en Périgord noir et sur la toile mondiale www.périgord103.org. Et nous allons écouter quelque chose qui s'est passé en fait dans une émission de télé, parce que le mois dernier nous avions parlé justement de la grève des chômeurs qui est prévue ce 3 mai dans toute la France, et donc nous allons écouter cet extrait de cette émission de télé et nous nous apercevrons une fois encore de la légitimité de ceux qui ont le droit de parler.
On va prendre dans l'ordre.
Oui, entre vous,
nous sommes des chômeurs des précaires. Oui. Oui. Ah. Et nous pouvons prendre la
parole. Nous sommes des chômeurs et des précaires du 3 mai.
Bon, alors, nous sommes en direct.
Voilà, c'est des directs. C'est bien, c'est des directs.
C'est du direct. Alors, attends. Il y a une personne qui peut venir.
D'accord.
Bon, d'accord.
D'accord.
Voilà. Non, mais j'ai l'impression d'avoir vécu ça 15 fois. Et ça a lieu ce soir.
On n'oublie pas leurs 4 questions et on les laisse parler.
Alors,
il y en a d'autres, c'est... Non,
c'est bonjour, tout. Vous êtes. Alors, malheureusement, on n'a pas de micro, alors on va essayer. Ben, approchez-vous de moi.
Approchez-vous.
Là, oui. Non, mais je vous en supplie, faites un petit effort pour pas lire un texte pendant une demi-heure, parce que ça va être compliqué. De quoi il s'agit précisément?
Oui. De la grève des chômeurs.
Oui.
Qui aura lieu le 3 mai.
Oui.
À Paris.
Voilà,
je vous. À Rennes, à Tours.
Oui.
À Nantes. Et à Montreuil. Et
ouais.
À Brest.
Oui.
Le 3 mai.
D'accord.
Donc on va vous lire le texte.
Ah non. Vous êtes adorable. Non, vous êtes très gentil. Non mais soyez.
On a la main de la culpabilisation et de la mise au travail forcé.
Oui mais ne criez, c'est pas la peine de crier.
Ne criez pas par les oreilles.
Non mais monsieur, venez nous expliquer parce que vous le connaissez, c'est votre combat.
Nous avons été sollicités.
Venez là.
Nous avons été sollicités pour répondre comme dans ces histoires-là des panels. On connaît la procédure. On a répondu. On a pourquoi on ira, pourquoi on n'irait pas.
Mais voilà, vous y êtes.
On se retrouvait à devoir répondre. Des questions déjà toutes faites. Donc on s'est dit, on va y aller sans aucune violence.
Mais on vous dit, il n'y a rien de violent.
Librement la parole.
Ouais.
Donc c'est un petit texte qui parle de la situation des chômeurs
monsieur...
aujourd'hui en France. Et je pense que c'est plutôt démocratique.
Non, mais attendez, d'accord. Monsieur, on vous a entendu. Les gens, ce n'est pas des questions préformatées, ce sont les leurs.
Je voudrais simplement. C'est messieurs, dames, en fait.
Voilà.
Alors allez-y, faites la proposition.
Ne tremblez pas, tout va bien.
Ne tremble pas.
Normalement, c'est moi qui devrais trembler.
Allez-y.
On en a marre de la culpabilisation et de la mise au travail forcée. Nous avons besoin d'inventer ensemble une grève des chômeurs, une grève de tous les précaires. Nous appelons à commencer dès le 3 mai. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'usine où nous retrouver qu'on ne va pas s'organiser. Mais ce serait quoi une grève des chômeurs? Ça commencerait par un mouvement de refus. Refus de nous laisser harceler, mobiliser, culpabiliser, insérer de force. Les réformes de Pôle emploi ou du RSA cherchent à nous coincer un par un pour nous faire accepter des emplois de 10 heures par semaine, payer une misère dans les secteurs les plus difficiles.
D'accord, mais maintenant on arrête, pardonnez-moi, parce que... Non.
Alors moi je propose une chose.
Vous savez,
je propose une chose. Non mais attendez.
Non mais qui en est un qui vient ici?
Je propose une chose. On a une émission d'une heure encore. Revenez tout à l'heure à la fin de l'émission avec un truc plus court parce que vous pouvez pas prendre non plus tout le monde.
Bon, d'accord. Voilà, terminez mademoiselle. Pardonnez-moi monsieur le ministre, terminez.
Il faudrait accepter n'importe quel travail sous peine de perdre une allocation de survie. Rappelons juste que M. Sarkozy vient de proposer, encore une fois, de couper les allocations aux familles dont les enfants seraient suspectés d'absentéisme.
Bon.
Et qu'en plus, nous soyons reconnaissants. Devrions-nous avoir honte de ne pas savoir nous vendre à n'importe quel employeur?
D'accord.
Honte de ne pas vouloir déménager pour un boulot? Honte de ne pas accepter tout et n'importe quoi?
Mademoiselle.
De ne pas plier en somme?
Mademoiselle, mais j'ai pas du tout l'intention.
Mais on s'arrête là.
Pardonnez.
S'il vous plaît. Non,
mais je regrette.
Franchement, nous avons mieux à faire. Bon.
Je crois que Bernard,
laisse-les jusqu'au bout.
N'est pas très loin. Non, mais c'est pas. Si, on n'est pas là pour lire un texte.
C'est aussi intéressant que la vie des messieurs.
Mieux à faire que ce qu'on exige de nous. Voilà pourquoi nous refusons d'être suivis, contrôlés, managés, culpabilisés, radis. Pendant ce temps, on renfloue les banques avec l'argent public et on ose nous dire qu'il va falloir se serrer la ceinture.
Mademoiselle.
En 2010. 1 million supplémentaires de chômeurs.
Non, on va pas aller jusque-là, c'est très long.
Une fois de plus, nous servirons de prétexte à des débats d'experts sur les travailleurs pauvres qui décideront à notre place ce qui est bon pour nous. La grève des chômeurs et précaires, ce serait dès maintenant ne pas rester isolé, sortir des eaux glacées du calcul égoïste dans lesquels on nous plonge. La grève des chômeurs et précaires, ce serait décider ensemble d'enrayer une machine à précariser faite pour nous manager à mort. Nous appelons tous les travailleurs précaires, les intérimaires en colère, les intermittents du spectacle et de l'emploi, les saisonniers, les stagiaires démotivés, les étudiants désorientés, les retraités en mal de revenus, les sans-papiers, les licenciés preneurs d'otages, les travailleurs forcés, les volcans fraîchement réveillés à se rencontrer, à discuter dans les queues des caves, des pôles emploi, dans la rue, partout. Déjà à Rennes, Brest, Paris, Montreuil, Tours et dans d'autres villes, des précaires et chômeurs s'organisent, que 1000 collectifs fleurissent
du plein emploi.
Le 3 mai, la grève des chômeurs commence.
Voilà. Merci. Merci. D'accord. Merci.
Mother's little help.
Forêt reclus à l'Elysée sur Radio 103, 102.3 FM et 95.9 sur Radio Plaisance et sur internet www.perrier203.org. Cette radio est une radio libre, laïque et associative et sans publicité. Et nous avons ce soir Fabrice qui va nous parler et nous allons parler ensemble d'Assud. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour.
Donc voilà, on va commencer par déjà présenter Assud.
Ben alors Assud, ça veut dire auto-support des usagers de drogue.
Oui.
Donc des personnes qui prennent des substances illicites, qui consomment ou qui ont consommé des substances illicites parce que il y a eu nécessité de défendre l'intérêt de ces gens et même leur vie même. Au début des années 90, dans le contexte de l'épidémie de SIDA, en fait. C'est ça l'origine de l'association.
D'accord, et c'est quoi l'autosupport, en fait?
Alors, autosupport, c'est un terme barbare qui est la traduction de l'anglais self-support. En fait, c'est parce que l'organisation d'Assud s'est faite sur le modèle de groupe qui existait déjà à l'étranger et qui avait déjà une dénomination théorique, donc self-support of drug users. Donc on a traduit bêtement autosupport, ce qui veut absolument rien dire, mais finalement c'est pas plus mal parce que comme ça, bon, on n'est pas emmerdé, quoi. Si on avait fait association des drogués, c'était beaucoup plus compliqué.
C'est un peu plus dur, ouais.
Voilà, donc autosupport des usagers de drogue, personne comprend bien, mais bon, je peux en parler en famille, à mes voisins, donc...
Ça passe bien.
Voilà. Alors oui, donc je disais, oui, donc ce qui est important de rappeler, c'est ce contexte de l'épidémie de SIDA, puisque il y a eu un moment historique où le SIDA a créé une véritable psychose dans la société française.
Oui.
C'est marrant parce qu'on s'en souvient plus. Il y a eu la grippe A là récemment, mais on se souvient pas de l'époque où pour rapprocher les malades du sida, et on avait dans les hôpitaux des gens en scaphandre.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc il y avait une parano, un fantasme sur l'idée que cette maladie allait ravager la terre entière.
Et ça, sur la transmission et tout,
voilà.
Ça.
Oui. Donc maladie sexuellement transmissible, mais à l'époque on n'était pas sûr que c'était pas aussi la salive, etc. Des gens qui commençaient à mourir de manière très visible. Et la population des usagers de drogue étant, comme la population dite normale, hétérosexuelle, donc c'était un vecteur de transmission important à l'époque. Et ce traumatisme a permis de faire bouger des choses qui étaient établies depuis des années, à savoir que l'usage de drogue est un délit et que à partir de là, il fallait le combattre d'abord par la répression.
Comme toujours.
Voilà. Et donc, puisqu'on s'est rendu compte que la répression n'avait absolument aucun impact sur la transmission du SIDA, et de toute façon on savait déjà depuis des années que la répression n'avait aucun impact ni sur l'augmentation de la consommation, ni sur les conséquences sanitaires de la consommation, mais que ça avait juste une fonction morale de pouvoir séparer les bons des méchants, c'est-à-dire
ça,
les gens qui prenaient les bonnes drogues licites étaient dans le camp des bons. Il y avait, il y a toujours d'ailleurs tout un contenu politique et idéologique, une utilisation idéologique de cette question sérieuse qui est la consommation de drogue. Et là, donc, par la panique qui s'est emparée des autorités sanitaires, on a fait bouger un tout petit peu les choses. C'est-à-dire que se sont mis en place en France ce qu'on appelle les traitements de substitution, donc qui étaient combattus absolument depuis des années alors qu'ils existaient dans les pays du nord de l'Europe. On a dépénalisé la fourniture de matériel stérile qui était pénalisée depuis le début des années 70, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu la loi qui criminalise l'usage de drogue, la loi de 70.
Oui.
Et puis on a mis en place ce qu'on appelle la réduction des risques à l'usage de drogue, dont fait partie l'association comme Assud. Voilà, donc ça c'est l'origine.
Parce qu'il y avait eu aussi une campagne justement pour donner des seringues stériles et tout ça, mais ça n'a pas vu le jour non plus dans les pharmacies ou tout ça. Ça n'a pas été relayé comme ça aurait pu l'être, en fin de compte.
Tu veux dire à l'époque ?
Oui.
À l'époque, il y a eu effectivement en 87, le ministre de la Santé de l'époque, qui s'appelait Michel Barzac, a pris cette mesure contre l'avis d'ailleurs de la majorité gouvernement, mais soutenu par Jacques Chirac, qui était le président, pour lutter contre le sida. Elle a dit il faut décriminaliser l'usage de drogue. Et ça, ça a été la première mesure de réduction des risques en France. Ce que j'ai dit, décriminaliser la vente de seringues, pas l'usage de drogue.
C'est ça, oui.
La vente de seringues. Et ça a été la première mesure de réduction des risques en France. Alors effectivement, là, ça a coincé un peu au niveau des pharmaciens, mais enfin, assez rapidement quand même, les seringues sont devenues accessibles, et c'est d'ailleurs pour ça que le sida n'est plus une maladie liée à l'injection de drogue. Là, aujourd'hui, dans les nouveaux cas de sida, c'est moins de 1% qui concerne des usagers injecteurs de drogue.
Oui, parce que justement, que ce soit à Sud ou je pense aussi à Top, tout ça, pour la réduction des risques, justement, sur le terrain et tout ça, vous faites quoi, vous ?
Bah, nous, de toute façon, à Sud, maintenant, on est vraiment plus du tout... Il y a une association à Sud, à Nîmes, une autre à Marseille qui fournissent des services directement aux gens. Effectivement, il y en a une autre à Orléans aussi, mais nous, ici à Paris, on fait que du lobbying et que de la communication.
Donc,
et puis c'est plus le combat d'aujourd'hui. Là, encore une fois, les seringues, il y a tout un appareillage maintenant qui s'appelle les CARUD. Bon, c'est un truc un peu compliqué. C'est des centres d'accompagnement à la réduction des risques qui fournissent le matériel stérile aux gens, notamment, qui sont un peu précarisés. Et puis sinon, pour les gens qui sont des usagers lambda, ils vont se fournir en pharmacie. Il y a quand même assez peu de pharmacies maintenant qui refusent de fournir des seringues. De toute façon, il n'y a plus de différence entre les seringues fournies aux usagers de drogue et aux diabétiques. Bon, les diabétiques maintenant utilisent beaucoup de stylos, mais il y a encore il y a encore des gens qui ont des maladies chroniques et qui préfèrent utiliser des seringues. Donc pour les pharmaciens, ça devient compliqué quoi de refuser de vendre une seringue.
Oui, c'est ça.
Donc c'est plus un enjeu d'aujourd'hui quoi. Ça veut pas dire qu'il faut pas continuer à être vigilant, mais c'est vraiment cette histoire de seringue, c'est la bataille des années 90. Quoi.
C'est ça. Et les objectifs maintenant d'Assud, c'est quoi?
Là, on est beaucoup plus sur le terrain politique, puisque ce qui nous inquiète là dans la réduction des risques, c'est qu'elle a perdu absolument tout contenu politique.
Oui.
Qu'elle est remplacée par un discours très très sanitaire et très médical sur les drogues sont dangereuses. Et ça nous inquiète parce que, à l'origine, le discours de la réduction des risques et la philosophie même de la réduction des risques, c'était justement de dire les drogues peuvent être dangereuses, mais les interdire les rend encore plus dangereuses.
Tout à fait.
Ce qui est le béaba. Hein. Enfin, d'ailleurs, en plus, tous les spécialistes, au fond, sont d'accord avec ça. Sauf que maintenant, c'est la médecine, y compris... ce qu'on appelle l'addictologie, c'est-à-dire la hiérarchie médicale, qui s'est emparée de ce dossier. Il y a une industrie pharmaceutique qui est intéressée dans ce dossier aussi, puisqu'on fournit des produits de substitution et que c'est un poste budgétaire énorme.
Ça, c'est ça, le lobby pharmaceutique.
Ça fait partie des choses qu'il faut savoir, quoi. C'est notamment le médicament qui est le plus fourni, qui s'appelle le Subutex. A contribué à réaliser une fortune pour le laboratoire Schering Plough et bon qui par ailleurs a rendu service aux usagers de drogue, hein. Il faut pas voir les choses caricaturer les choses, mais donc du coup c'est quand même en termes d'influence sur la société, en termes de possibilité de faire passer des lois, c'est plus cet aspect des choses qui prime. Et donc c'est assimilé, maintenant l'usage de drogue est plus assimilé à une maladie tout en continuant à être un délit.
Oui, c'est
donc
ça,
c'est l'absurdité est là, quoi. C'est que la réduction des risques avait comme avantage de mettre l'accent sur les questions sanitaires tout en disant, encore une fois, pour soigner les gens, faut pas les considérer comme des délinquants. C'est le bon sens même.
Oui, c'est ça. Hein?
On va pas, mettre en prison tous les gens qui attrapent un cancer. Hein? Enfin, je sais pas. Si on est vraiment sur ce modèle-là. Or, en fait, c'est un modèle qui était, qui convient pas à l'usage de drogue. Il convenait au sida, mais le sida était une maladie qui était liée à l'interdiction des seringues, donc liée finalement à la répression.
C'est ça.
Mais les gens qui prennent des drogues sont pas tous des malades. Alors certains, effectivement, deviennent malades des drogues, comme on devient malade d'un certain nombre de choses, comme il y a
évidemment
des alcooliques qui deviennent malades de l'alcool, mais tout le monde voit bien que la majorité des gens qui consomment de l'alcool ne sont pas des malades. Mais à partir du moment où l'usage de drogue est considéré comme une maladie, quel que soit son volume, quelle que soit son intensité, ça devient le discours majoritaire devient pénalisant parce que on est toujours dans quelque chose qui est illégal et qu'en plus qui est considéré comme une maladie chronique.
C'est
donc
ça,
c'est très compliqué, voilà, de faire changer les choses au niveau de la loi. Parce que au niveau le public, lui, même les gens qui prennent des drogues occasionnellement, sont assez, je pense, terrorisés par ce discours médical, quoi. On leur dit les drogues sont dangereuses, ils disent ok, et puis ils vivent ça d'une manière culpabilisée. En plus, il y a une partition sociale dans la manière dont les dégâts liés aux drogues sont occasionnés. Plus on est vulnérable, c'est comme l'alcoolisme, hein, et pourtant c'est aggravé par encore cette question de la clandestinité et de l'illégalité, quoi. Plus on est pauvre, et plus les drogues font des dégâts, et plus on est en plus matraqué par la répression, et moins on est informé sur les dégâts que ça peut causer.
Et donc la réduction des risques, en fait, est encore plus, encore les risques sont encore plus multipliés.
Voilà, les risques sont multipliés. D'ailleurs, c'est pour ça que la réduction des risques proprement dite, qu'on appelle la réduction des risques en France officiellement, ça concerne surtout les gens à qui on fournit des seringues dans des boutiques et qui sont souvent des gens de la rue. Par contre, pour ce qui est de la population plus favorisée socialement, elle a aucun problème pour se procurer du cannabis ou éventuellement de la cocaïne. Et,
oui,
et donc, du coup, ces gens se mobilisent pas vraiment pour changer des choses en matière de drogue.
Puisqu'eux sont protégés encore, oui.
Enfin, ils sont protégés, il faut pas non plus... ils ont aussi, je pense... Ils ont surtout la crainte, plus on est favorisé socialement, plus justement on a crainte de perdre quelque chose en termes d'image. Puis tout simplement, être identifié comme toxicomane, c'est vraiment pas un plus dans la vie. Hein.
Oui, ça c'est clair. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous avez fait des brochures aussi à Sud. Il y a un journal aussi.
Oui, alors l'origine d'Assud, c'est d'abord un journal. Hein. C'est d'abord le journal qui nous sert de référence depuis 1992.
D'accord.
Donc on est au 43e numéro là, et c'est un journal il faut préciser qu'il est financé en partie par le ministère de la Santé.
D'accord.
Et pourtant, c'est un journal où on ne cesse de contester la légitimité de la loi, mais ce journal a comme particularité de s'adresser aux gens qui consomment des drogues illicites. Donc,
c'est ça. Ben, on va écouter un petit peu de musique.
Ouais.
Et puis on revient tout de suite après. Donc avant, on a écouté Mother's Little Helper par René Binamé. Et là, on l'écoute par les Stones, donc la version originale. What a drag it is getting old. Are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way
gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she buys a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, gets her through her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she's just four more. What a drag it is getting old. Men just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Just much too hard today. I hear every mother say, the pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day.
Voilà, Forêt Reclus à l'Elysée. Donc, Fabrice,
oui.
On revient avec toi, donc, qui est membre d'ASUD. Et donc, moi, je voulais parler un peu de si ASUD avait eu des pressions, si elles en ont encore maintenant, si tout ça, quoi.
Ah oui, alors des pressions politiques, en fait, bizarrement, on n'en a jamais eu trop.
D'accord.
De la part du ministère, en tout cas qui nous finance jamais. Par contre, il y a eu plusieurs campagnes de presse et y compris une campagne de nature politique menée par des sénateurs là qui avaient fondu un rapport qui s'appelait Drogue, l'autre cancer.
Ah,
c'était en 2002. Et donc, dans ce rapport, il stigmatisait ASUD en disant que c'était une association qui était prosélyte des drogues et que ça n'avait pas à être financé par l'État. Et ensuite, ça a été relayé par une pétition de plusieurs députés, il y avait 78 députés, je crois. Et donc, ce qui est arrivé sur le bureau de Xavier Bertrand, qui était à l'époque ministre de la Santé. Donc ça c'était bien après, hein, parce que ça a duré quand même 4-5 ans.
Aïe, aïe, aïe.
Et en fait, au nom de la réduction des risques, ça a été balayé.
C'était balayé, oui.
J'ai même eu l'occasion de rencontrer Christine Boutin, qui était signataire du truc, mais en fait, qui a été extrêmement courtoise et je dois dire assez tolérante dans le dialogue que j'ai eu avec elle. Mais c'est étonnant en fait, hein, c'est quand on sur ce sujet-là, hein, particulièrement, quand on discute avec les gens, on se rend compte que ils n'ont pas forcément les positions caricaturales qu'on peut attendre des uns et des autres, notamment sur la disposition droite-gauche.
Oui, mais alors il y a une vidéo sur le site d'ASUD, on donnera l'adresse après d'ailleurs,
ouais.
Justement par rapport aux salles de shoot,
ouais.
Donc j'aimerais en parler aussi,
ouais.
Et là il y a tout le panel justement, gauche, droite, vert,
exactement.
Par rapport
sur
la salle de shoot.
Alors, c'est un bon exemple, ça, ouais. Parce que les salles de shoot, en fait, c'est soutenu autant de droite que de gauche. Mais en même temps, bon, c'est un dossier, c'est pas un dossier très, ça devrait pas être un dossier idéologique, c'est un dossier technique. Ça consiste à dire, encore une fois, il y a des usagers qui sont particulièrement vulnérables et particulièrement précarisés, qui vivent dans la rue. Bon, c'est pas la majorité, loin de là. Hein. Et j'insiste là-dessus parce que on a toujours cette idée des toxicos. Bon, enfin,
quand on est dans les poubelles, de drogue, en train de se shooter.
C'est effectivement quelque chose qui traverse la société dans son entier. Mais les gens les plus visibles et les gens dont il faut s'occuper en priorité, effectivement, c'est les gens qui se détruisent le plus et qui sont souvent des gens les plus vulnérables. Bon. Donc à l'étranger, encore une fois, notamment en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, non pas en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, enfin, en Norvège, au Danemark, il y a une solution qui a été trouvée, c'est d'ouvrir des endroits où les gens peuvent s'injecter leur drogue de manière à peu près clean, avec l'assistance éventuelle de personnel de santé, et où ils peuvent souffler un peu, et où on leur apporte des informations sur les services sociaux, sur la possibilité d'être pris en charge sur le plan médical et sur le plan social. Enfin, c'est un véritable lien.
C'est ça.
Alors ça, c'est la fonction humanitaire. Voilà. Mais en fait, notamment, bon, moi j'ai été visiter ces centres en Suisse, et tu te rends très vite compte que c'est pas la fonction humanitaire qui a permis de les multiplier, c'est la fonction sociale. C'est-à-dire que pour les gens qui vivaient auparavant autour des scènes de drogue qu'on appelle les scènes ouvertes, c'est-à-dire les endroits où des usagers se réunissent pour consommer, mais de manière totalement sauvage, et où il y a effectivement du deal comme ça, de manière visible, pour les riverains, c'est absolument l'enfer.
Oui, c'est ça.
Et notamment les Suisses étaient particulièrement sensibles à cet aspect des choses. Donc ils avaient compris que bon, tu casses la scène avec du matraquage policier, elle se reconstitue à quelques blocs plus loin. Bon, donc l'ensemble des forces politiques ont établi un consensus autour de cette nécessité d'avoir ces salles de consommation, mais le principal raison, c'était de pouvoir sécuriser les quartiers où il y avait l'usage de drogue, et que simplement les riverains ne se retrouvent pas avec des seringues dans leurs escaliers.
Voilà,
c'est pas, faut pas croire que c'est forcément ouais. L'humanisme qui prime. Dans
c'est
ce
pas
cas-là.
Du tout pour que justement les usagers de drogue puissent se shooter bien,
ouais,
réduire
enfin, bon,
les
c'est
risques,
que...
ce machin, c'est plus pour les...
Voilà, enfin, en tout cas l'argument d'accord. qui passe le plus au niveau de la société, c'est celui-là, quoi.
D'accord.
Et en même temps, moi je trouve ça légitime. Hein. Je pense que quand on est installé dans un quartier avec des enfants, etc., je ne suis pas sûr que ce soit très génial d'avoir des usagers qui viennent shooter dans votre escalier. Hein.
C'est clair.
Mais bon, il faut avoir, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un argument qui devrait être idéologique. Et du coup, effectivement, il y a des maires de droite, il y en a notamment un, je crois que c'est le maire de Mulhouse. Enfin, où c'est un député d'Alsace, quoi, qui est très à droite et qui soutient absolument ce dispositif, parce que lui, il voit bien que sinon, dans sa ville, qui est située juste en face de la frontière suisse, eh ben, tous les usagers posent des problèmes, et notamment posent des problèmes aux salles de shoot suisses, puisqu'ils vont là-bas, quoi.
D'accord. Ben, on va écouter un petit peu de musique encore, donc avec Dr. Claude, Et après, on parle justement des États-Unis, Fabrice.
D'accord, ok.
Yeah.
Forêt reclus à l'Elysée, c'était Dr. Clout, donc avec Mother's Little Helper, donc la bonne mère de famille désespérée qui prend des médicaments pour faire face à sa vieille de mère au quotidien. Donc Fabrice Dassud, je voulais qu'on parle un peu des États-Unis parce que c'est un peu intéressant ce qui se passe aussi là-bas par rapport aux usagers de drogue.
Oui, alors c'est vrai que c'est les bonnes nouvelles du moment parce qu'en France c'est plutôt triste, mais aux États-Unis alors qu'ils ont été à la tête de la guerre à la drogue depuis les années 70, hein, le concept de guerre à la drogue c'est un concept américain,
hein, oui.
Qui a été proclamé par Richard Nixon en 1969, qui a déclaré dans un discours célèbre qu'il fallait que c'était l'ennemi public numéro un des États-Unis, donc en même temps que le communisme, quoi. Et ensuite, pendant toutes les années Bush, il y a eu le même logiciel qui a été mouliné à l'infini sur les terroristes, le fait que l'usage de drogue était un allié du terrorisme. Et c'est aussi un problème énorme en termes de conflits raciaux.
Oui.
Puisque, donc, comme ici d'ailleurs, l'usage de drogue sert de prétexte à un certain nombre de répressions de populations dangereuses, quoi. Et comme aux États-Unis, les classes sociales sont très marquées par les questions raciales. Pour la communauté noire et portoricaine, cette question de l'usage de drogue est un vrai casse-tête, hein, parce que en même temps, bon, il y a aussi l'influence des églises, tout un discours puritain.
C'est ça, mais tout le poids de la religion.
Bon, nous engagés dans la lutte contre la prohibition, on est en contact avec des groupes, y compris des groupes communautaires noirs et hispaniques et latinos qui revendiquent clairement la sortie de la prohibition, parce que pour eux, la prohibition, c'est un instrument d'oppression mis au service de ce qu'ils appellent le pouvoir blanc. Effectivement, c'est des choses qu'on peut voir ici, hein, qui effectivement, sous prétexte de drogue, on contrôle, on stigmatise, on enferme. Et pendant toutes les années Bush, ça a été le championnat du monde de l'enfer. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers pour des questions de drogue. Et là, depuis l'élection de Barack Obama, les choses sont en train de changer.
C'est-à-dire
que une des premières choses qu'il a dites, et c'est que effectivement la guerre à la drogue ne devait pas être une guerre menée contre les concitoyens, contre ses concitoyens. Donc ça, c'est une chose. C'est un président aussi qui a été le premier tout à fait clair sur ses propres consommations. Donc ça, c'est quand on connaît un peu la classe politique française, c'est quand même, j'allais dire stupéfiant, c'est le cas de le dire.
Oui, c'est le cas de le dire.
Quand même ce mec là qui t'explique très clairement que bon, bah oui, qu'il a fumé de l'herbe, qu'il a pris de la coke. Bon, alors il s'en vante pas non plus, hein. Mais enfin, il n'est pas particulièrement repentant. Enfin, si, il dit que c'est pas bien de prendre de la drogue, mais contrairement à tous ses prédécesseurs américains...
Oui, il enferme...
Non, il en fait état. Il y a même un joke, parce qu'il dit... on lui a demandé, mais est-ce que vous avez avalé la fumée quand vous avez fumé un joint? Parce que Clinton, à qui on avait posé la même question, disait, j'ai juste pris un
bout des lèvres,
mais j'ai pas osé avaler la fumée. Et Barack Obama répond, ah bon, bah évidemment que j'ai avalé la fumée, puisque j'avais compris que c'était ça l'intérêt. donc tout ça, ça a changé le climat. Et très vite, des mesures concrètes sont apparues, qui concerne le cannabis à vocation thérapeutique. Mais quand ils disent à vocation thérapeutique aux États-Unis, ça veut dire que n'importe quel médecin peut vous prescrire une ordonnance de cannabis, finalement, même pour un mal de tête, même pour un peu de dépression, ce qui fait que...
Ça, c'est bien, ça.
Voilà, ce qui fait que le créneau cannabis thérapeutique recouvre quand même énormément de gens. Quand j'étais aux États-Unis, je voyais quelqu'un qui disait on voit les patients arriver au centre de cannabis thérapeutique en patin à roulettes. Ils n'ont pas l'air franchement malades. Et donc ça, c'est la première mesure concrète. C'est-à-dire que dans 15 États, le cannabis thérapeutique est devenu légal. Et c'était une bataille qui était menée depuis des années. Parce que le paradoxe des États-Unis aussi, c'est ça. C'est qu'il y a un lobby de lutte contre la prohibition qui est énorme, qui est financé par un milliardaire assez connu qui s'appelle George Soros, et qui regroupe des forces politiques très différentes qui sont situées à droite comme à gauche, et notamment pour celle de droite, c'est le courant libertarien, c'est les gens qui sont pour la liberté économique totale, mais aussi pour des questions de liberté individuelle totale. Donc pour eux, que l'État s'arroge le droit de venir vous expliquer quelle drogue vous devez consommer est un pur scandale. Donc, c'est l'association de ces deux forces, donc les progressistes qui classiquement sont pour la sortie de la prohibition pour la raison que j'ai citée tout à l'heure, notamment de protection des minorités, et les libertariens qui sont eux dans le parti républicain. Hein.
Rien à voir avec les libertaires. Hein, je vous
alors,
dis ça,
voilà, enfin, c'est rien à voir, c'est ça. Il y a des liens parce que dans les deux cas, c'est une hostilité absolue au pouvoir de l'État. C'est-à-dire que dans les deux cas, on considère que l'État n'a pas à se mêler de la vie privée. Mais effectivement, après, les conséquences qu'on tire de ce constat sont pas du tout les mêmes sur le plan philosophique. Dans un cas, c'est le droit du plus fort, en quelque sorte, c'est-à-dire liberté économique totale, et dans l'autre cas, bon, enfin, on va se lancer sur un truc...
Oui, non, mais on va pas le dire, on sait.
Voilà. Et, enfin, en tout cas, moi, de ma position, le fait que ces deux forces soient liées dans ce combat-là, je trouve ça vachement intéressant, et c'est sans doute ça qui fait bouger les choses aussi à l'heure actuelle. Puisque là, donc, il y a cette étape cannabis thérapeutique, et là, la prochaine étape, c'est un référendum qui aura lieu en Californie au mois de novembre pour la légalisation pure et simple du cannabis. Et les deux arguments qui sont développés, c'est un, la sécurité. La Californie est un pays frontalier du Mexique et la guerre des gangs, la question des mafias du cannabis est un problème terrible, comme les mafias du crack d'ailleurs, mais enfin là, il n'est question de légaliser que le cannabis. Qui fait des morts tous les jours, la guerre des gangs fait des morts tous les jours, et donc les gens de droite comme de gauche sont arrivés à monter un courant d'opinion qui dit, pour nos enfants, pour la sécurité de nos enfants, il faut arrêter cette guerre à la drogue. Donc c'est retourner complètement les arguments qui sont utilisés en France.
Ben oui.
Donc ça c'est le premier argument, et deuxième argument c'est un argument économique, qui consiste à dire que la guerre à la drogue coûte trop cher, et que au contraire, si on vendait du cannabis taxé par l'État, on pourrait générer des profits, et des profits qui ensuite pourraient servir aux prises en charge sanitaires.
Oui.
Donc deuxième argument qui est complètement antinomique de ce qu'on peut aussi entendre en France. Et on comprend que c'est des arguments qui plaisent à l'échiquier droite, quoi.
Oui, c'est ça. Donc c'était économique, de toute façon.
Économique, sécurité. Mais... En même temps, on ne sortira pas de cette affaire si on n'arrive pas à utiliser des arguments du même ordre, parce qu'encore une fois, les bons sentiments, les questions sanitaires en disant « regardez, comme les pauvres drogués vont pas bien », ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire les gens ne s'identifient pas à part une frange de convaincus. Quoi. Donc, pour moi, l'espoir, il est là, d'autant plus que les États-Unis, au niveau planétaire, sont en tête de la croisade contre la drogue. Donc, s'ils changent leur fusil d'épaule, pour le coup, ça peut avoir des conséquences importantes, y compris en Europe.
Tout à fait. Tu peux nous donner le lien du site d'Assud?
Oui. Alors, le site, c'est www.assud.org.
D'accord. Et un numéro de téléphone ou une adresse, quelque chose?
On peut donner une adresse mail. Donc, c'est assud@club-internet.fr. Et pour le numéro de téléphone, 01 43 15 09 00.
Oui, parce que là, c'est à Paris. Mais sinon, il y en a vraiment partout, dans toute la France.
Pas du tout, non. Il y a eu une grande époque du Sud où il y en avait 22 en France. Là, maintenant, on ne sait plus qu'il y a 5 groupes en tout.
Je croyais qu'il y en avait plein d'autres.
Non. Le militantisme, comme je l'ai expliqué, et puis la question des drogues n'est pas en phase d'expansion.
Avec tout le côté répressif, comme tu nous en as parlé que c'est pas...
Le répressif et médical a sérieusement réduit l'état des troupes. Mais maintenant, la différence, c'est que la plupart des gens sont des gens qui sont salariés, quoi. Donc, c'est plus une association militante.
Le salariat aussi, c'est autre chose. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup, Fabrice.
Je t'en prie.
Et puis, à très bientôt.
D'accord.
Et puis...
Et merci de m'avoir écouté.
Bonne route, et puis je rappelle donc la grève des chômeurs qui est prévue le 3 mai dans toute la France. Et nous faisons encore une dédicace à toutes les mamans avec Mother's Little Helper, mais par Arnaud, et cela en live. Donc dans 15 jours, merci Fabrice pour la technique, merci encore Fabrice d'Assud, et bon week-end à tout le monde.
Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. Though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just to dry. And she buys an instant cake, and she burns her frozen steak. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and to help her on her way, her to her busy day. Doctor, please, some more of day. Outside the door, she took four more. Satisfied, you can tranquilize. to help you through the night, help to minimize your plight. Getting old.